9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, le début du déconfinement à partir du 11 mai. Comment relancer l'économie sans relancer l'épidémie? Le Conseil scientifique vient de donner ses recommandations. Le gouvernement présentera son plan mardi. Les députés LR ont élaboré le leur. Mon premier invité sera le virologue, professeur au Collège de France, Philippe Sansonetti, grand spécialiste des vaccins. Je lui demanderai d'abord ce que signifie l'avertissement de l'OMS hier. Il n'y a aucune preuve que les anciens malades du Covid-19 soient immunisés. Il nous faudra donc inventer non pas la vie d'après, mais la vie avec le virus pour éviter de l'attraper. Défi considérable, contraintes multiples. C'est toute notre vie en société, nos relations, nos habitudes, travail et loisirs qui vont s'en trouver bouleversés, sans doute pour de très longs mois, constate le politologue Arnaud Mercier, qui sera en ligne avec nous. L'information en temps de crise participe-t-elle à la crise? Dominique Volton en est convaincu. Le décalage entre le temps scientifique et le temps médiatique et la surinformation provoque paranoïa, rumeurs et fake news. Nous en discuterons avec lui. Enfin, la place du livre dans cette vie d'après ou cette vie avec. Alors que le secteur attend avec impatience la réouverture des librairies, la présidente de Flammarion, Anna Pavlovitch, nous dira comment elle imagine la suite. Flammarion qui lance avec la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, une opération de solidarité, lire pour soigner. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Philippe Sansonetti.
Bonjour Patrick Cohen.
Professeur au Collège de France, professeur émérite à l'Institut Pasteur, spécialiste des maladies émergentes. D'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'avertissement lancé hier par l'OMS? Il n'y a aucune preuve d'immunité des anciens malades du Covid.
Moi, je pense que l'OMS est dans son rôle d'avertir que les évidences scientifiques sont encore insuffisantes pour pouvoir finalement assurer que la séropositivité, comme on l'appelle maintenant régulièrement, des patients convalescents de Covid-19, au fond, protège d'une infection à venir ou d'une surinfection. Maintenant, une fois qu'on a lancé cette alarme, disons, il faut réfléchir un petit peu à ce que représentent les résultats de cette sérologie, à ce qu'on sait de la science en général par rapport à la protection contre les maladies infectieuses virales et de ce qu'on commence à savoir, parce qu'il faut aussi se dire que cette maladie, elle n'existe que depuis 4 mois. Vous vous rendez compte du temps qu'on s'impose en termes de pouvoir donner des réponses extrêmement claires. Donc on peut peut-être parler un petit peu plus de ce qu'est véritablement le mécanisme de protection, ce que signifie cette séropositivité, et puis en tirer quelques conclusions sur, au fond, que peut-on en faire dans les décisions par rapport à la prévention, par rapport à la reprise du travail, et ainsi de suite.
Bien sûr, mais il y a une incertitude quand même sur l'immunité elle-même ou sur peut-être sur la durée de cette immunité.
Il y a une incertitude à tous les niveaux pour l'instant qui va se clarifier assez rapidement, mais qui ne pourra se clarifier, il faut bien le dire, que par des grandes études épidémiologiques de manière à pouvoir répondre à cette question, c'est-à-dire faire des sérologies dans la population en comparaison de l'infection par le virus et pouvoir finalement définir et éventuellement sur plusieurs mois quel est le niveau de cette protection, quelle est sa durée. Donc il y a beaucoup de travail de pain sur la planche pour répondre à ces questions fondamentale. C'est pour ça que l'OMS est prudent.
En tout cas, et de toute façon, que l'immunité existe, qu'elle soit temporaire ou durable, est-ce qu'on peut dire, professeur Sansonetti, qu'il faut oublier la stratégie ou l'objectif d'une immunité collective qui provoquerait un nombre de victimes considérable?
Je pense qu'en dans les faits, c'est déjà ce qui a été décidé, puisque au fond, le confinement a été une réponse à cette question. C'est-à-dire, effectivement, on ne vise pas d'obtenir cette pourcentage de taux d'attaque sur la population de 60-70% selon le taux de reproduction de la maladie, selon la façon dont on le calcule. Donc ça, c'est passé derrière nous. On voit bien que les premiers résultats des études épidémiologiques basées sur la sérologie montrent que on est dans des régions même qui ont été passablement affectées, au-dessous de 10%, peut-être éventuellement un petit peu plus au cœur de ces gros foyers d'ici. Et quand on voit donc ce que déjà ce faible pourcentage a causé de tensions sur notre système de santé, sur nos médecins, nos infirmières, aides-soignants et autres, on sent bien ce que serait multiplié par 10, puisque si on passe de 6 à 60%, c'est exactement ce dont on parle, ce que serait le système de santé dans ces conditions. Donc je pense qu'on a fait le choix d'ores et déjà de vivre avec cette notion que tout le monde ne sera pas infecté par ce virus et qu'il faut en tirer les conséquences justement sur la qualité de la prévention dans cette période qui va venir de déconfinement.
C'est ce que souligne le Conseil scientifique dans son avis rendu hier soir. 70% de la population française infectée laisserait 250 000 morts pour ce qu'on sait aujourd'hui du taux de mortalité réel.
Oui, c'est quand même effrayant par rapport à ce que notre société pourrait tolérer. Donc il faut, je pense, être clair sur ce sujet et se dire encore une fois que malheureusement, on a des mois devant nous d'incertitude par rapport à tout ça tant qu'on n'aura pas de traitement et de vaccin. C'est une évidence.
Alors justement, bon, la stratégie sera bien d'éviter le virus et non pas de le laisser se répandre. On va en reparler dans deux minutes, professeur, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de cette marche forcée aujourd'hui pour la mise au point d'un vaccin. Une centaine d'équipes y travaillent dans le monde. La revue Science annonce la réussite d'un vaccin expérimental testé sur des macaques. On a l'impression que ça va très vite, très très vite, on a tort.
Non, je pense que ça va très vite, ça n'a probablement jamais été aussi vite. Il faut voir que la barre a été placée très très haut. On considère généralement qu'en moyenne, à partir du moment où on décide de faire un vaccin et le moment où ce vaccin va être sur le marché, il se passe entre 8 et 12 ans. Ça a été le cas pour la plupart des vaccins qu'on connaît jusqu'à présent. Là, on est en train de mettre une barre à un an et demi, ce qui serait... si ça se réalise, déjà un exploit formidable. Mais je pense qu'il y aura un vaccin. Oui, il faut d'abord qu'il y ait un vaccin, mais il y aura un vaccin. On a déjà des données relativement solides sur la base des études qui avaient été faites lors du SRAS en 2003. On sait déjà quels sont les antigènes, c'est-à-dire les facteurs du virus qui seraient les plus adaptés pour constituer un vaccin, quelle que soit la forme d'ailleurs de ce vaccin. Donc on a déjà beaucoup d'informations. On a eu des débuts d'études cliniques qui ont montré la tolérance éventuelle de ces vaccins, quelques petites difficultés éventuelles, mais on a déjà une masse d'informations relativement importante pour orienter ce développement vaccinal. Donc il y aura un vaccin, il faut considérer ce qu'est quand même le temps de mise au point, le temps nécessaire aux essais cliniques, le temps nécessaire à aussi un certain degré d'enregistrement. Il y a de l'administration dans tout ça qui est malheureusement, je dirais entre guillemets, indispensable. Et donc le temps vaccin est quand même relativement éloigné. Moi, si vous me permettez, je voudrais faire une toute petite parenthèse en disant que il faut ce vaccin. C'est évident, ce sera la seule façon d'éliminer, voire d'éradiquer ce virus, en particulier dans les pays pauvres, dans les pays qui n'auront pas nécessairement le système de santé leur permettant cette lourdeur de tout ce qui est nécessaire pour la prévention, si vous voulez, en termes d'isolement, de distanciation sociale et ainsi de suite. Tout ça, c'est lourd, c'est difficile. Avant que le vaccin arrive, je pense qu'il va falloir considérer aussi le temps médicaments. Les médicaments vont sûrement venir, je l'espère plutôt que le vaccin. Et ces médicaments, non seulement pourront éliminer ce spectre de la maladie qui est finalement l'hospitalisation en réanimation, si on diminue la quantité de virus, la maladie naturellement sera moins grave, et puis ils réduiront la masse virale circulante et donc peuvent avoir un effet temporaire proche de ce qu'on obtiendra finalement définitivement avec le vaccin. Donc on va y aller par étapes là aussi.
Professeur Sansonetti, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on parle du déconfinement pour résumer ce que vous avez écrit. On a intérêt à ne pas se rater. À tout de suite.
Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée demain.
Avec le professeur Philippe Sansonetti, microbiologiste, professeur au Collège de France, vous avez été l'un des premiers, il y a 10 jours... a souligné toute la complexité du déconfinement dans un texte publié sur la vie des idées, le site du Collège de France. Sortir du confinement, la somme de tous les dangers. Le danger, le risque, c'est la reprise d'une vie sociale, les contacts humains qui provoqueraient une nouvelle flambée épidémique.
Le risque, bien sûr, c'est le risque de rebond, c'est le risque de remise en tension de notre système hospitalier avec des personnels qui sont épuisés et qui n'ont pas envie de revoir ça. C'est le risque économique de faire ce que j'ai appelé des confinements en accordéon. Je pense qu'il faut réussir ce déconfinement et on peut, sur des bases théorique le réussir. Après, en pratique, c'est entre nos mains, c'est entre les mains de nos autorités sanitaires et politiques. Mais je pense que j'avais insisté dès le début sur le fait que on a en tant que citoyen une immense responsabilité dans la prévention de la transmission de ce virus. Et il faut qu'on en soit conscient, en particulier dans ce moment d'euphorie que va être le déconfinement. Le virus est toujours là. La circulation a diminué, bien entendu, heureusement. Au fond, la population naïve à ce virus reste tellement importante qu'on a toutes les bases pour redémarrer sur la même dynamique qu'on a observée malheureusement au mois de février et au mois de mars. Donc c'est très important que nous soyons bien conscients de la nécessité de continuer ces mesures d'hygiène extrêmement strictes. Moi, je suis depuis le début pour le port du masque dans la zone, dans l'air public, dans les transports. Nos collègues et au fond les citoyens des pays asiatiques le font. C'est indispensable. On voit très bien maintenant dans les pays où la circulation du virus a été très faible qu'il y a une corrélation étroite avec l'obligation du port du masque. C'est en particulier, encore une fois, la situation dans les pays asiatiques. Il faut absolument qu'on arrête ces discussions à n'en plus finir. Port de masque pour tout le monde dans l'espace public, on ne discute plus. Et puis cette distanciation sociale, cette décontamination des mains. Avec ça et le diagnostic systématique des patients et l'isolement et éventuellement de pouvoir retrouver un maximum de contacts, on doit pouvoir y arriver. Les Coréens y sont arrivés. On restera fragile parce qu'il faudra maintenir cette pression, ça va être difficile, mais on peut y arriver.
Et ça dépend, on vous a bien entendu aussi, beaucoup des comportements individuels, de la responsabilité de chacun. Philippe Sansonetti, vous étiez vous aussi, comme le conseil scientifique, sur la ligne d'une réouverture des écoles en septembre.
Oui, bon, on s'était, je pense, tous, sans même s'être concertés, mis un petit peu sur cette trajectoire-là. Mais en sachant qu'au fond, qu'est-ce qui sera différent au mois de septembre d'aujourd'hui si la maladie n'a pas eu son génie particulier de décider de disparaître, on sera quand même dans une situation complexe. Alors, au fond, rétrospectivement, on a bien vu que c'était une décision politique, on a bien compris les arguments. Est-ce que ces 6 semaines ou 8 semaines qui vont venir après le déconfinement vont permettre, au fond, de faire un peu un état des lieux de la façon dont on peut assurer la sécurité dans les établissements scolaires à la rentrée de septembre? C'est une espèce de brouillon, si je puis dire, d'exercice ou de manœuvre préliminaire. Moi, bon, après tout, c'est une décision politique, elle a ses arguments, les risques sont pesés, il y a des difficultés, mais il faudra les affronter de toute façon en septembre. Alors peut-être, au fond, fallait-il les affronter maintenant où le virus circule peu et on peut le faire encore pendant quelques semaines sans trop de risques si, pour le reste, on fait très très attention.
Il y a des risques de toute façon, c'est ce que vous nous dites, et à quelques moments que ce soit. Philippe Sansonetti, vous avez aussi signé avec d'autres scientifiques une tribune parue dans Le Monde hier qui juge que l'application de traçage numérique Stop Covid doit faire partie de la stratégie mise en place. Ça vous semble indispensable ?
Ça me semble important parce que de toute façon, tout est bon à prendre pour limiter la circulation du virus. Et au fond, je pense que on a souvent à voir les choses de façon un petit peu binaire. C'est-à-dire la circulation ou non-circulation du virus, c'est les masques, c'est pas les masques, c'est les comportements de distanciation, c'est pas les comportements de distanciation, c'est le diagnostic, c'est pas le diagnostic, c'est le traçage. Je pense que c'est plus on additionne et plus on met d'obstacles à la circulation de ce virus, mieux ça vaut. Après, je pense, c'est vrai que signer des pétitions, c'est toujours complexe parce que ça traduit jamais totalement la profondeur de la pensée des individus qui la signent. Je pense qu'il y a des risques. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un débat parlementaire sur ce sujet et que cette décision de traçage soit prise de façon véritablement éduquée par l'ensemble des sujets, des personnes qui vont prendre ces décisions, mais aussi par la population, qu'elle sache exactement de quoi il s'agit. C'est indispensable parce que c'est vrai qu'on voit nos libertés s'éroder peu à peu et là, c'en est peut-être une occasion de plus. Il y a encore probablement quelques petites choses à améliorer dans cette application pour être certain de la confidentialité. Et il faut que ce soit fait, il faut que ce soit discuté par nos parlementaires.
Mais ça vous semble important, en tout cas...
Important, oui. Dans le dispositif, bien entendu.
Un dernier mot, Philippe Sansonetti. Vous avez vu que, on parlait des vaccins tout à l'heure, vous avez vu que les anti-vax ou vaccino-sceptiques ressortent déjà du bois. L'eurodéputé écolo Michel Rivasi a cru bon de demander hier comment envisager qu'un vaccin contre le coronavirus qui mute sans arrêt puisse être réellement efficace alors que les vaccins contre les grippes saisonnières ne le sont pas. Bonne ou mauvaise question ?
Non, c'est une bonne question. Regardez le VIH, on n'a toujours pas de vaccin parce que le VIH est un virus qui évolue très très rapidement. Il semble que le coronavirus soit plus stable, en tout cas pour l'instant. Et je pense que Madame Rivasi a absolument tort de faire des affirmations aussi péremptoires dans cette situation. Il faut un vaccin, ce sera la seule façon de se débarrasser de cette maladie, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des difficultés, c'est une évidence, mais c'est sûrement pas une raison pour ne pas le faire.
Est-ce qu'il est possible que dans un premier temps, on ait un vaccin qui offre une protection incomplète, qui ne soit pas une garantie absolue d'immunité ?
Oui, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure sur le binaire. Un vaccin peut éventuellement ne pas protéger à 100%, mais inscrit dans un dispositif plus large de mesures de prévention, il va jouer son rôle. Si même un vaccin ne protégeait, par exemple, c'est le vaccin de la grippe, hein, qu'à 50 ou 60%, vous vous rendez compte déjà du frein que vous mettez à la circulation du virus. Donc certes, peut-être ne protégerait-il pas individuellement, encore une fois, l'individu est dans un tissu de mesures de prévention, mais à l'échelle globale, ce vaccin aurait quand même un impact. Après, où mettons le seuil au-dessous duquel le vaccin est considéré comme insuffisant et autour peut-être de ces 60-70% dont on parle d'atteinte de l'immunité collective, parce que finalement, un vaccin, ce qu'il nous procure, c'est une immunité collective, comme la maladie naturelle, si on la laisse se perpétrer.
Merci beaucoup Philippe Sansonetti, merci à vous. Je rappelle votre livre dont on espère qu'il redeviendra très vite d'actualité, Vaccin, chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, on prend la mesure de ce que seront tous les bouleversements, non pas de notre vie d'après, mais de notre vie avec le virus. Le politologue Arnaud Mercier à suivre.
Europe 1, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cet arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Arnaud Mercier.
Bonjour.
Professeur en information et communication à Paris 2 Assas et auteur d'une tribune publiée cette semaine par Le Point, l'enjeu n'est pas la vie d'après, mais la vie avec le virus, dans laquelle vous détaillez tous les bouleversements qui nous attendent, toutes nos habitudes, toute la vie en société qui vont être remises en cause. Vous pensez qu'on sous-estime encore aujourd'hui ces conséquences ou qu'on se trompe de débat ?
Oui, je le pense sincèrement, même si les choses évoluent, j'allais dire presque de jour en jour, parce que la prise de conscience augmente, mais quand on voit l'ampleur du déni de la menace qu'il y a eu avant, et même j'allais dire quelques jours avant que le tsunami s'abatte en quelque sorte sur nous au moment de l'épidémie, je me dis qu'il y a encore ici beaucoup, beaucoup de réflexes, de déni de la menace, de la vie d'après, et on sent, ce qui est logique d'ailleurs, hein, psychologiquement, je comprends très très bien pourquoi on adopte ce genre d'attitude qui consiste à se dire, bon, c'est un cauchemar, c'est une espèce de parenthèse. Et puis voilà, regardez le nombre de gens qui vous disent, on avait un besoin d'une date, le 11 mai, c'est important, au moins ça nous permet de... Mais ça permet, de commencer à réenvisager des choses, mais certainement pas, c'est certainement pas un coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup, on va retrouver la vie d'avant. Alors que certains posent des questions, est-ce que je vais prendre des billets d'avion? Quand est-ce que je peux prendre mes billets d'avion pour aller en vacances? Vous voyez, enfin, donc on voit bien qu'il y a une part de déni de l'enjeu, de la durée du problème.
Oui, de la durée et de ses conséquences dans la vie de tous les jours. En gros, vivre avec, ça veut d'abord dire, c'est une première chose, et on le voit dans le débat sur la réouverture des écoles, encore ce matin, vivre avec, ça veut dire d'abord accepter le risque, une part de risque aussi, pour tout le monde.
Oui, absolument. C'est un vrai défi, j'allais dire, psychologique et psychologique à titre individuel et sociétal, de se dire, bon, ben, maintenant, nous, est-ce que nous acceptons l'idée que tant que, c'est ce que disait votre invité précédent, tant qu'il n'y a pas de vaccin, de toute façon, la vie ne sera jamais exactement comme avant. Quelle part de risque nous acceptons, et quelle part de solidarité nous devons à ceux qui sont plus à risque que d'autres. On l'a bien vu, les comorbidités étaient très importantes dans ceux qui ont disparu, hélas. Et donc, est-ce que on fera preuve totalement de solidarité vis-à-vis des plus fragiles, des plus exposés, ou est-ce que la société fait le choix collectif cynique, on dirait, enfin, un Donald Trump fait à peu près ce choix-là, hein, de se dire bon ben voyez, il y aura des morts, mais il faut pas que l'économie s'arrête, donc il n'est pas question de changer l'essentiel de nos habitudes, notamment en matière économique, pour bon ben quelques milliers de morts, quelques dizaines de milliers de morts, vous voyez, enfin, sur un mode presque de fatalisme. En fait. Et je crois que si on veut lutter contre ça, il faut réfléchir à comment on vit avec.
Oui, et vous pointez là un danger qui n'a pas été beaucoup exploré, comme cette maladie est très inégalitaire, qu'elle épargne presque totalement les plus jeunes. Vous vous demandez comment garder cet esprit de solidarité, comment éviter les comportements à risque de ceux qui peuvent se croire invincibles. Vous pensez que la tentation peut être là?
Oui, parce que regardez, moi je ferais volontiers le parallèle avec le sida. Il y a eu une phase de déni de la maladie à son émergence au milieu des années 80. On voulait pas, par exemple dans la communauté homosexuelle, certains refusaient l'idée que les homosexuels étaient plus à risque que d'autres par leur comportement sexuel, et donc crier à la stigmatisation, puis on a pris conscience, puis tout le monde s'est mis à se protéger, mais tout ça se met sur quelques années, hein, en matière de vie sexuelle, et puis arrivent les traitements, et là réapparaissent des comportements à risque et des gens qui vous disent bon, finalement c'est une maladie chronique, bon bah voilà, puis je prendrai ma trithérapie. Enfin, on voit bien comment des évolutions comme ça se font, et il me semble que là, dans le cas qui nous intéresse, surtout si on est jeune, puisque les statistiques plaide pour eux, c'est-à-dire dire que finalement il y a peu de chances qu'ils fassent des formes très sévères et qu'ils mettent leur vie en cause. Certains peuvent se dire bon bah adoptons des comportements à risque qui fait que on adopte, enfin si on doit l'avoir, et ben on aura le virus puis on sera débarrassé une fois pour toutes, et voire même on aura un avantage comparatif par rapport à ceux qui ont peur de l'avoir et qui ne pourront pas prendre tel ou tel emploi, prendre les transports en commun normalement. Enfin vous voyez, on peut imaginer tout à fait ça, oui.
Avec des risques évidemment causés pour les plus fragiles et les plus âgés. Il y a un risque que l'acceptation sociale des mesures d'hygiène s'effrite dans une partie de la population, vous le pensez ?
Ben oui, je le crois, puisque il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Les chercheurs et les médecins découvrent presque chaque jour que telle ou telle caractéristique qu'on n'avait pas envisagée. On voit très bien comment certains avaient commencé par faire un parallèle avec la grippe. Bon, on voit bien que c'est autre chose. Ils pensaient bon, c'est une pneumonie, mais finalement c'est plus compliqué puis une pneumonie. Enfin, donc les choses évoluent évidemment, mais ce qui apparaît quand même de façon très claire, c'est que les jeunes, par exemple, sont beaucoup moins à risque que d'autres de voir leur bilan vital en jeu. Donc, du coup, ils peuvent avoir une autre perception qu'une partie de la société, c'est évident.
Ce qu'on ne mesure pas encore bien, ce sont tous les compartiments de notre vie en société qu'il va falloir repenser pour éviter les contagions, les espaces de travail, les transports, l'éducation, les rencontres amicales, les bars, les restaurants, le sport, la culture, tout va être impacté, enfin à des niveaux différents évidemment, mais toutes nos habitudes en fait seront changées, et sans doute pour de longs mois, Arnaud Mercier.
Oui, c'est ce qu'on peut penser à partir du moment où on voit qu'il n'y a pas effectivement d'effet baguette magique du type le virus disparaît spontanément pendant l'été parce qu'il fait chaud, parce que évidemment la médecine n'a pas encore toutes les armes pour éviter ça. Donc du coup, nous allons vivre avec cette épée de Damoclès, sur la tête, et donc il va falloir apprendre à gérer le risque, d'autant plus que on n'imagine pas un seul instant un pouvoir politique en France ou ailleurs, prendre des risques inconsidérés de type réouverture totale, etc. Encore que Jair Bolsonaro au Brésil semble en être l'incarnation, mais par ailleurs, on n'imagine pas un politique, on va dire, à peu près rationnel, prendre le risque d'être accusé cette fois-ci d'être le responsable d'un deuxième choc épidémique. Donc il va y avoir forcément des mesures. Et par exemple, je réfléchissais en tant qu'universitaire à la réouverture des universités. Quand on a des amphis bondés, des salles de TD, où on met 40 étudiants dans 35 en espérant qu'il y aura 2-3 chaises et puis 2-3 malades du jour qui feront que tout ça, ça sera bien. Si le gouvernement nous dit, et le ministère dit, ok, réouverture des universités en septembre, pas de problème, mais alors par contre, règle de distanciation sociale, un étudiant tous les mètres, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait dédoubler tous les TD, alors que la plupart des universités savent déjà pas comment mettre les étudiants dans des salles de TD. Donc ça veut dire probablement téléenseignement à nouveau. Enfin, je pense qu'effectivement, il va falloir se projeter très sérieusement sur l'idée que il faut changer un certain nombre de nos schémas mentaux et en tout cas, je crois que nous avons tous le devoir à tous les niveaux de se poser la question au moins des deux scénarios, c'est-à-dire est-ce que le scénario du retour à la normale est possible, mais quel est l'autre scénario auquel nous devons nous préparer. Je pense que c'est ça l'anticipation, c'est la capacité à jouer au jeu des scénarios et à anticiper le pire pour être certain d'y être prêt si jamais on est confronté à ça, ce qui semble malheureusement assez probable. D'ailleurs aux États-Unis, là, il y a des rapports internes à la Maison-Blanche qui ont filtré dans la presse, qui disent ça, qui disent on en a pris pour des mois, pendant des mois il va falloir vivre autrement.
Arnaud Mercier, je ne vous dis pas au revoir. J'aimerais que vous restiez en ligne parce qu'avec Dominique Volton, dans un instant, on va parler de l'information en temps de crise, de l'effet produit par les médias qui tournent 24/24 sur le Covid. C'est aussi votre domaine. À tout de suite donc avec Dominique Volton.
Europe 1, c'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Dominique Volton. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Très bien, très bien.
Très bien, bonjour, directeur de recherche au...
Pour la communication, il faut être deux. C'est ça qui est compliqué par rapport à l'information.
Ah ben, évidemment, au moins deux. Directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Hermès. Est-ce que j'exagère, Dominique Volton, en disant que, selon vous, le traitement médiatique de la crise fait partie de la crise, voire qu'il contribue à la crise ?
Eh bien oui, parce que si vous voulez, on est sur un schéma qui est vrai, mais qui va devenir de plus en plus faux. Plus il y a d'informations, plus on pense qu'on maîtrise la réalité, que ce soit la réalité politique, militaire ou sanitaire. Et en fait, on a tous rêvé d'avoir une abondance d'informations, plus une information la plus proche possible de l'événement. Et là, on s'aperçoit que les effets pervers de la vitesse d'information, de la performance des techniques, posent une question fondamentale. Vous et moi, on est saturés d'informations, on ne peut pas absorber, on ne peut pas communiquer en fonction de ce volume d'informations, on ne peut pas agir en fonction de ce volume d'informations dont on est acteur et spectateur simultanément. Et du coup, il y a un hiatus, c'est-à-dire que l'information, elle angoisse autant qu'elle informe. Et la question de trouver l'équilibre est une question très difficile. En tout cas, aujourd'hui, la technique dans l'information, plus les enjeux économiques et financiers, font que la dimension politique et émancipatrice de l'information pose problème. La preuve, il n'y a jamais autant d'informations, il n'y a jamais autant de secrets, jamais autant de rumeurs et jamais autant de fake news. Donc, ce n'est pas le volume ni la vitesse de l'information qui suffit à informer et rassurer. Donc, on est sur une question théorique, politique, culturelle, très importante pour l'Occident.
Mais qui dicte le tempo ? Est-ce que ce sont les chaînes d'information continue, comme vous le dites, ou est-ce que c'est pas simplement l'impatience, l'anxiété, l'envie de savoir des citoyens qui sont confrontés à une crise absolument inédite ?
Ah mais attendez, on peut élargir, parce que moi j'avais fait un livre sur la première guerre du Golfe, où en fait, pour la première fois, on avait une information en direct de la guerre. Et cette information en direct, donc c'était « on a le droit de savoir sur la guerre oui. », c'est terminé par un monceau de rumeurs. Et d'ailleurs, j'ai fait ce livre où il y avait à la fois les rumeurs et les informations. Oui, et vous et moi, on veut de l'information. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on peut rien faire sur le monde en fonction de cette information ne nous rassure pas, elle nous angoisse. Et il y a une confusion entre ce que veulent les politiques et les journalistes par rapport à la lenteur de la vie quotidienne. Si on ne peut pas communiquer mieux, et surtout si on ne peut pas agir sur le monde en fonction de la vitesse de cette information, elle n'est pas forcément démocratique. Et c'est là où il y a une contradiction sur laquelle il faut qu'on pense, d'autant que les politiques et les journalistes, étant anxieux les uns et les autres, pensent que si on va de plus en plus vite dans l'information, on aura de plus en plus la vérité. Et ce n'est pas vrai. Parce que plus il y a d'informations, plus il y a de rumeurs. Et surtout, ce qu'on oublie, qui est le plus important d'un point de vue théorique, c'est pour ça que je me bats depuis des années pour qu'on comprenne que l'information et la communication, ce sont des questions essentielles. La question principale de l'information, c'est la communication, c'est-à-dire c'est le récepteur. Comment vous et moi nous recevons cette information ? On n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on a des âges, des sexes, des religions, des idéologies. Et donc, par conséquent, il ne suffit pas d'informer pour que l'information passe. C'est-à-dire, quand un gouvernement dit de bonne foi, je vais communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dire quelque chose, et il pense que les gens vont accepter, mais pas du tout. Le récepteur, plus vous et moi nous sommes assujettis à des informations, plus nous résistons, et c'est tout à fait normal, et heureusement. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner? Donc vous avez là-dedans la concurrence économique et financière entre les médias. Les réseaux sociaux n'ont pas simplifié parce qu'au départ c'est un contre-pouvoir, et c'est vrai, contre les médias et contre les politiques, sauf que le cœur des réseaux sociaux, c'est l'expression. Mais s'exprimer, c'est pas informer. La grandeur du journaliste par rapport à l'expression, c'est que vous, c'est votre métier, vous avez raison, vous avez tort, mais en tout cas tous les matins, à longueur de journée, vous sélectionnez ce qui va passer d'une expression ou d'une rumeur à une information. Mais plus tout le monde raconte sa vie dans les réseaux, plus vous avez d'abord le risque de solitude. Si tout le monde s'exprime, qui écoute? La première question, c'est pas de s'exprimer, c'est de s'écouter. Et s'écouter, c'est très dur, parce qu'on n'a pas les mêmes idéologies, pas les mêmes âges, pas les mêmes visions du monde. Et même si on a la même vision du monde, ben quand on se projette hors de l'Europe, si je prends l'Europe comme un ensemble homogène, et ben vous avez le reste du monde qui pense pas et ne rêve pas et ne crée pas de la même manière. Donc plus il y a d'informations, plus c'est compliqué. Du côté de la réception, c'est-à-dire vous et moi, du côté de ce qu'on va pouvoir en faire. Donc c'est pour ça que je dis, si on veut sauver ce concept démocratique d'information et de communication, il faut réfléchir. La vitesse, la technique et même les rendements financiers ne suffisent pas à résoudre le problème. Vous avez les réseaux aujourd'hui, mais vous avez aussi toutes les rumeurs et tous les fake news. Et la preuve, c'est que les médias sont obligés de passer 20 à 10 à 30% de leur temps, et c'est normal, à se démonter les fake news. Sur les fake news, moi j'ai une hypothèse toute simple.
Oui.
C'est pas normal, les fake news. On est d'accord, c'est la perversion de la démocratie. Et si c'était un moyen pour des individus, en dehors de ceux qui sont mal intentionnés, bien sûr, mais les fake news, et si c'était un moyen pour des gens ordinaires, vous et moi, de reprendre pied sur la réalité qu'on ne peut pas changer, et qu'au travers des fake news ou des rumeurs, on arrive à redevenir acteur du monde. Parce que vous et moi, on est impuissants sur le monde. On le regarde, on l'écoute, on nous en raconte toutes les contradictions, les saloperies, etc., mais on ne peut pas agir. Donc c'est une hypothèse pas plus bête qu'une autre, de dire, mais finalement, le fake news, c'est un moyen comme un autre, ou la rumeur, de reprendre pied, avoir une capacité d'action. Parce que si vous avez une information qui ne crée pas de la communication, et c'est le cas aujourd'hui parce que l'information va trop vite sur les capacités de réception, ou que les gens soient d'accord ou pas d'accord, et qu'ensuite de ça, vous avez une information abondante qui ne vous permet pas d'agir plus sur le monde, eh bien, il y a un effet schizoïde et angoissant. Et ça, ce sont des problèmes qui n'existaient pas il y a 60 ans, puisqu'on continuait sans cesse, à juste titre, à essayer de raccourcir le temps entre l'événement et l'information. Donc tout ce qui était de l'information était bon. Mais non.
Oui.
Vous, le journaliste, les trois quarts du temps, vous n'êtes pas là pour annoncer des bonnes nouvelles, parce que ce que vous dites du monde va contre les idéologies et les choix et les âges du récepteur. Donc d'une certaine manière, le journaliste, il restera toujours dans une situation inconfortable, et c'est sa grandeur, de devoir essayer de comprendre ce qui se passe au jour le jour, et de dire des choses qui ne plairont ni aux acteurs politiques, ni aux citoyens. Et c'est ça, c'est cette distance qu'il faut garder. C'est pour ça que je dis que plus il y a d'informations, plus il faut de journalistes. Et c'est dangereux et démagogique de dire on n'a plus besoin des journalistes, on devient soi-même des journalistes citoyens. Non, on peut évidemment apporter son concours à l'information, mais c'est un métier d'être journaliste. C'est une tradition, c'est une culture, c'est une fragilité. C'est la preuve, c'est que dès que ça va mal, on tape sur eux en premier, ainsi que les universitaires. Donc je m'excuse, je m'arrête, j'étais trop long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la révolution de l'information et sa victoire technique pose au moins autant de questions qu'elle n'en résout. Et si on veut sauver le concept universaliste de l'information, eh bien, il faut réfléchir à tout ça et non pas s'imaginer qu'on va être gavé de plus en plus par de plus en plus d'informations.
Dominique Volton, votre regard sur la communication des pouvoirs publics, vous y avez fait allusion il y a quelques minutes.
Bah écoutez,
gouvernement et président.
Alors, c'est facile de critiquer quand on n'est pas l'acteur. Et là, il y a une panique quand même politique au niveau mondial et sanitaire, bien sûr. Bah, l'erreur, c'est de croire que plus on va s'exprimer, plus les gens vont être d'accord avec vous. Non. Vous pouvez parler pendant des heures, et si le récepteur est opposé, bah, il est opposé. Et donc, le chemin qu'a pris le gouvernement et Macron de parler et de dire la transparence, ça a des limites. Si vous voulez, personne n'est complètement transparent, évidemment, ni vous ni moi. Et a fortiori un politique, non pas qu'il mente. C'est pas parce qu'on ne parle pas tous les matins qu'on ment. Pas du tout, c'est pas parce qu'on rapporte tous les jours. Un, trop d'interventions, à mon avis, nuit à la communication. Deux, paradoxalement, plus vous parlez, plus on pense que si vous dites ça, c'est que vous en cachez encore plus. L'homme est tordu, hein. Il ne croit pas à la vérité de l'information qu'on lui raconte. Il dit, s'il me parle de plus en plus, c'est qu'il me cache encore plus. Et troisièmement, à quoi ça sert de parler pour de toute façon aboutir à la solution, qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on n'est pas capable d'agir tout de suite et qu'il reste beaucoup d'inconnus. Donc le désir louable, démocratique, informer les citoyens, peut avoir des effets pervers. J'ajoute que ce fameux citoyen qui veut savoir et qui a le droit de savoir, vous et moi, faut pas charrier, c'est pas non plus un saint. Il a ses choix idéologiques. Dès qu'on lui donne une mauvaise nouvelle et qu'il ne va pas dans son sens, il n'entend pas. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, comme on dit. Et c'est bien vrai pour l'information. Donc un gouvernement, quel qu'il soit, a beau répéter, faire de la transparence, de l'interactivité, etc., c'est pas pour autant que les gens seront convaincus. Non, ce que le citoyen attend en démocratie, surtout dans des démocraties comme les nôtres, hyper médiatisées, où les pauvres politiques ont une marge de manœuvre infiniment faible, c'est qu'en gros, peut-être qu'ils parlent moins, peut-être qu'ils communiquent moins, peut-être qu'ils soient moins dans la recherche de la transparence, et que dans le silence et la distance du politique, ils essayent d'agir. Et c'est pas parce que vous ne dites rien que vous mentez. Puisque maintenant, plus on dit, plus on croit qu'on ment en même temps. Vous et moi, si vous voulez, le plus compliqué dans l'information, c'est le récepteur, c'est la communication, c'est l'autre. Et c'est pour ça que je le crie depuis des années. La question centrale, c'est pas l'information, c'est pas le message. C'est ouais. Qu'est-ce que les citoyens vont en faire. Et si on veut garder ce modèle démocratique qui est le nôtre, où finalement, vous et moi, on accepte d'écouter des informations tous les jours, ben, faut pas qu'on nous dégoûte du monde. Parce que si les citoyens commencent à dire « je fais la grève de l'information », on ne peut rien.
Oui,
c'est une question de confiance. Et la question centrale, c'est la confiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des journalistes. Et c'est ça qui est fragile et qui fait la grandeur de la société démocratique, c'est qu'il y a un minimum de confiance, même si on n'est pas d'accord entre nous.
Dominique Voltan, je voudrais qu'on donne une minute la parole à Arnaud Mercier. Arnaud Mercier, vous êtes toujours en ligne. Qu'est-ce que vous pensez du regard de Dominique Voltan sur cette mécanique qu'il juge délétère ?
Non, je ne la juge pas délétère, je la juge
comme ce fumant.
Dangereuse.
Comme ce fut mon maître intellectuel, j'ai peu de chance d'être totalement en désaccord avec Dominique, mais je voudrais apporter un regard, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, je voudrais porter quand même un regard un peu décalé d'un point, c'est qu'on a beaucoup critiqué les médias pour ce qu'ils ont fait, la couverture médiatique, le fait qu'ils soient à peu près tous en édition spéciale depuis plus d'un mois maintenant, dans ce régime-là, que effectivement tout le reste de l'actualité disparaît, mais en même temps c'est massif hein, et c'est historique, alors là, pour le coup le mot n'est pas galvaudé. Moi je trouve quand même que les médias, globalement, ont fait un énorme travail d'info-service et qu'on revoit là une des fonctions aussi démocratiques du journaliste qui est de donner à savoir au public des informations utiles et pratiques qui leur permettent de construire leur vie, de leur comportement. Donc, dans la proximité, la PQR, beaucoup de journaux ont fait un travail remarquable, y compris d'institutions de liens de solidarité. Sud-Ouest crée une appli qui permet à des gens de se connecter, de partager des choses, etc. Donc je crois que moi je voudrais saluer le travail remarquable quand même qui a été fait globalement par les médias, d'essayer de passer très rapidement, non pas dans une information sensationnaliste, les morts, les machins, etc., mais aussi d'être dans une relation de proximité et d'utilité sociale à travers justement, alors y compris bien sûr le fait de dénoncer des fake news sur la santé, etc. Mais il y a vraiment quelque chose où on sent les journalistes ont réinvesti une partie des missions que peut-être justement ils faisaient moins en dehors de cette épidémie.
C'est bien de l'avoir dit aussi. Merci beaucoup Arnaud Mercier. Merci Dominique Voltan.
Je peux vous dire un mot quand même. Un mot.
Très vite.
C'est compliqué. On a dit pendant 20 ans que les réseaux sociaux c'était l'avenir et comme par hasard dans une crise, on s'aperçoit du rôle essentiel de la presse écrite, de la radio et de la télévision, c'est-à-dire soi-disant des vieux médias qui sont en fait essentiels en matière de confiance et de légitimité. Ça c'est important à dire. Aucun média ne supprime les autres, mais c'est vrai que c'est plus grand de faire de la radio, de la télévision et de la presse écrite que simplement d'avoir des capacités d'expression mutuelle. Si tout le monde parle, je dis tout le temps, qui écoute ? Personne. Donc on arrive à des soliloques. Voilà, c'est ça le danger.
Merci Dominique Voltan de l'avoir dit. Merci à vous. Lire pour soigner, c'est l'opération de solidarité lancée par Flammarion au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La présidente de Flammarion, Anna Pavlovitch, va nous en parler. Question aussi sur ce qui est en train de changer dans le secteur du livre. À tout de suite.
Europe 1. Patrick Cohen reste avec vous en direct de chez lui pour cette arrivée demain.
Bonjour Anna Pavlovitch.
Bonjour.
Présidente des éditions Flammarion, vous lancez avec la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France une opération de solidarité Lire pour soigner. De quoi s'agit-il ?
Écoutez, on s'est rendu compte, ça aurait été compliqué de passer à apercevoir, hein, mais on s'est rendu compte chez Flammarion que les Français faisaient quelque chose de particulier tous les soirs, qu'ils applaudissaient à 20h. Le corps des soignants, ces hommes qu'on a appelés les héros en blouse blanche. Et on a été assez frappés par ce besoin de héros, par cet élan solidaire. Et puis on s'est dit que, et vraiment là j'insiste, hein, cette empathie elle est absolument formidable, hein, parce qu'elle, je crois qu'elle manifeste beaucoup de choses, elle manifeste un besoin d'union, un élan de solidarité, et envers ceux-là qui sont, je préfère dire aux urgences qu'au front, moi. Et en même temps, j'entendais des voix qui étaient un peu plus isolées, qui étaient souvent les voix de nos auteurs, ceux qui parmi nos auteurs sont des soignants, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, qui nous racontaient autre chose, qui nous racontaient leur quotidien. Et j'ai entendu aussi qu'ils auraient préféré avoir les moyens de soigner plutôt que d'être applaudis, voyez, un peu comme des héros, des héros qui sont prêts à mourir en blouse blanche. Donc on s'est dit que cette solidarité affective, elle devait être peut-être nourrie. Et quand on est éditeur, on se dit que le livre est la solution, les livres sont la solution pour tout. Et donc elle pouvait être nourrie parce qu'on avait, nous, des essais, des témoignages, des romans, des livres sur et du corps médical, des livres de médecins aussi. Et que c'était ça la solution. C'était ça la solution, de pouvoir donner à lire des livres pour connaître nos héros, on peut le dire comme ça. Mais en même temps, vous le savez, nos livres sont bloqués, nos livres sont pas disponibles en ce moment puisque les librairies sont fermées, ce qui nous a amené à monter une opération en numérique. Et cette opération-là, en fait, c'est comme un catalogue. C'est une bibliothèque sur les livres de santé, sur les romans aussi. Je crois que c'était important qu'il y ait des histoires.
Oui, il y a même le Gargantua de Rabelais et le Malade imaginaire de Molière aussi, qui ont un rapport particulier avec la médecine.
Je suis très contente que vous l'ayez remarqué, oui. Oui, bah Flammarion, c'est une vieille maison, hein. On existe depuis presque 150 ans. Donc forcément, notre catalogue, il nous ressemble. Et cette bibliothèque idéale de santé, sur la santé, elle a été construite avec toutes nos marques. Donc forcément, il y a aussi des classiques. Et puis, c'était important qu'il y ait des classiques, parce que l'histoire de la santé, c'est une très vieille histoire.
Et donc, ces ventes numériques sont au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. J'imagine, Anna Pavlovitch, que vous avez mal vécu dans cette période la fermeture des librairies. Certains libraires n'ont pas d'ailleurs compris la position de leur syndicat qui s'est opposé à la réouverture. C'était dommage.
Écoutez, je j'ai pas tellement envie de dire oui ou non, parce que pas parce que on touche, hein, mais parce que je crois que là, on peut pas dire la librairie, voyez, c'est difficile de dire la librairie, il y a des librairies et c'est un secteur qui est très très hétérogène. On peut pas comparer la réalité d'un libraire indépendant dans un village ou dans un quartier avec les grandes enseignes. Donc forcément, la réaction, elle a pas été uniforme, la réaction des libraires, parce que c'est des libraires. Mais ça a été une réaction au début. Au début, je crois qu'on était tous pris un peu de sidération, hein. Et les semaines passant, les choses s'organisent. Je sais pas si vous avez entendu parler du click and collect, c'est-à-dire la possibilité de venir chercher des livres après les avoir commandés. Voilà, je sais pas si ça.
Et j'ai même croisé dans mon quartier des libraires qui livrent eux-mêmes des ouvrages entassés dans leur cabas. Comment voyez-vous la suite pour le secteur du livre, pour votre maison d'édition? Est-ce que vous allez tenter de reprendre comme avant ou de façon différente?
Je crois que c'est compliqué de le dire déjà. Tenter de reprendre comme avant, non. Non, parce que ce qui serait peut-être bien, c'est enfin, moi, j'entends des phrases, là. J'entends qu'il faut se réinventer. J'attends faut penser au monde d'après. Je suis un peu dubitative, mais en même temps, je parle de l'endroit où je suis. Je vous l'ai dit, Flammarion est une maison qui est née en 1875. Hein. Donc, j'ai tendance à avoir une réaction qui nous ressemble, enfin qui ressemble à cette maison-là. Ma réaction a plutôt été avec les éditeurs, avec les équipes chez nous, de plutôt essayer de tirer les leçons du passé. Quand je dis le passé, je veux dire qu'est-ce qu'était notre métier et ce secteur-là avant le confinement, avant cette épidémie, et puis peut-être essayer de garder ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'on réapprend à travailler autrement. Donc c'est plutôt ça qu'on essaye de faire. Vous le savez, vous le savez pas, mais je vais vous le dire, le monde du livre était un monde pour lequel on a parlé, la chaîne du livre, pour lequel on a beaucoup parlé de surproduction. Alors ça, c'est à chaque rentrée littéraire, on entend, on lit qu'il y a encore 500 livres, il y a encore 500 romans.
Trop de parutions.
Il y a trop de livres, en gros. Il y a trop de livres. Alors ça, moi, ça avait tendance à m'énerver avant, parce que je trouve qu'on reproche pas à un vigneron de faire du vin. Et un éditeur, il fait des livres. Un éditeur, il édite. Et il essaye toujours, je crois, vraiment toujours, en tout cas, quand on a une certaine idée de ce métier, de le faire le mieux possible et avec avec tous les acteurs de la chaîne du livre. Parce que là, moi, je vous réponds en tant qu'éditeur. La vraie question, c'est comment la chaîne du livre va se réorganiser, comment est-ce qu'elle va pouvoir se réorganiser et est-ce qu'elle va pouvoir se réorganiser dans ce qu'elle était avant. Et ce qu'elle était avant, c'était quelque chose d'à la fois très complexe, très riche, hein, qui est une exception française, hein, c'est l'exception culturelle dont on a parlé. Et parce qu'elle est complexe, longue et riche, eh ben il y a des endroits où elle est fragile. Peut-être que je peux rappeler ce que c'est que la chaîne du livre. Hein.
Malheureusement non, Anna Pavlovitch, parce qu'on a plus on a plus de temps. Mais j'ai compris que vous alliez publier un peu moins à l'avenir.
Disons que la priorité pour nous. Au moment de la reprise, c'est d'abord c'est une priorité absolue, c'est d'abord de se concentrer sur nos livres qui sont déjà en librairie. Je crois qu'on a cette responsabilité-là, en tant qu'un des acteurs importants de la chaîne du livre, on a cette responsabilité-là de s'occuper de nos livres qui existent déjà, parce qu'un livre, c'est pas un produit périssable, hein. Ils sont en librairie ils seront en librairie depuis 2 mois. Et ces livres-là, c'est notre priorité et c'est ce sur lequel on se concentre et sur lequel on va attirer l'attention des libraires. Ensuite, on s'organisera.
Ouais, c'est ce qui va revivre après. Je suis désolé, Anna Pavlovitch, on a explosé le temps et la pendule. Merci beaucoup, présidente de Flammarion, d'avoir répondu à nos questions. Merci. À suivre après les infos de 10h, le grand rendez-vous. Bonjour, Mickaël Darmon.
Bonjour.
Votre invité ce matin.
Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande. Aujourd'hui, il veut aider Emmanuel Macron et se réinventer en France. Il va dire de quelle manière.
Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1.